Le devisement du monde de Marco Polo, chapitre 21 à 40. Pour audiocité.net, lu par Christian. Chapitre 21. De la ville de Kerman. Kerman est une ville très renommée où se trouvent beaucoup de ces pierres précieuses qu'on appelle vulgairement turchici ou turquoise. De même sont ici des mines d'acier et d'andenne, antimoine. Pareillement, on a des faucons excellents, le vol desquels est très vite et qui néanmoins sont plus petits que les étrangers. Kerman a des artisans de plusieurs ordres qui fabriquent quantité de brides, éperons, selles, épées, arcs, carquois et d'autres instruments selon la coutume de ce pays-là. Les femmes sont occupées de la broderie et font des coutes, couvertures, et des chevets très curieux. De Kerman, on s'en va par une grande plaine, et quand on a voyagé 7 jours, on parvient à une descente qui se parachève dans l'espace de 2 jours, et cela tellement que le pied du passant penche toujours en bas. Dans cette plaine se trouvent forces perdries, comme aussi des châteaux et des villes. Dans la descente penchante sont beaucoup d'arbres fruitiers, mais nulle demeure ou habitation sinon celle des bergers. Il fait dans ce pays si froid en hiver que l'on n'y peut demeurer. Chapitre 22. De la ville de Kamandou et du pays de Réobal. On vient après cela à une grande plaine où il y a une ville appelée Kamandou. Elle était grande autrefois, mais les Tartares l'ont ruinée. Le pays en a gardé le nom. On y trouve des dattes en abondance, des pistaches, des pommes de paradis, bananes, et plusieurs autres différents fruits qui ne croissent point chez nous. Il y a en ce pays-là de certains oiseaux nommés fincolines, francolin, dont le plumage est mêlé de blanc et de noir, qui ont les pieds et le bec rouge. Il y a aussi de forts grands bœufs, qui sont blancs pour la plupart, ayant les cornes courtes et non aiguës, et une bosse sur le dos, comme les chameaux, ce qui les rend si forts qu'on les accoutume aisément à porter de lourds fardeaux. Et quand on les charge, ils se mettent aussi à genoux, comme les chameaux. Après quoi ils se relèvent, étant dressés de bonne heure à ce manège. Les moutons de ce pays-là sont aussi grands que des ânes, ayant des queues si longues et si grosses qu'il y en a qui pèsent jusqu'à 30 livres. Ils sont beaux et gras, et de fort bon goût. Il y a aussi dans cette plaine plusieurs villes et villages, mais dont les murailles ne sont que debout, mal construites, quoique assez fortes. Car il règne en ce pays-là de certains voleurs qu'ils appellent Karaon et qui ont un roi. Ces voleurs usent, dans leur brigandage, de certains enchantements. Quand ils vont faire leur course, ils font par leur art diabolique que le jour s'obscurcit pendant ce temps-là, en sorte que l'on ne peut pas les apercevoir ni, par conséquent, se précautionner, et ils peuvent faire durer cette obscurité 6 ou 7 jours, pendant lequel temps ils battent la campagne, au nombre quelquefois de 10 000 hommes. Ils campent comme les gens de guerre, et lorsqu'ils sont dispersés, voici comment ils font. Ils prennent tout ce qu'ils rencontrent, bêtes et gens. Ils vendent les jeunes hommes et tuent les vieux. Moi, Marco, qui écrit ces choses, je suis une fois tombé à leur rencontre. Heureusement que je n'étais pas loin d'un château, appelé Kano Salim, où je n'eus que le temps de me sauver. Cependant, plusieurs de ma suite tombèrent dans ce piège diabolique et furent partie vendus et partie tués. Chapitre 23. De la ville de Kormos. Cette plaine dont nous venons de parler s'étend au midi d'environ 5 000. Il y a au bout un chemin par où l'on est obligé d'aller toujours en descendant. Ce chemin est très méchant et rempli de voleurs et de dangers. Enfin, l'on arrive dans de belles campagnes qui s'étendent de la longueur de 2 000. Ce terroir abonde en ruisseaux et en palmiers. Il y a aussi quantité de toutes sortes d'oiseaux, mais surtout de perroquets, que l'on ne voit pas le nom de la mer. De là, on vient à la mer Océane, sur le bord de laquelle il y a une ville nommée Cormos, ayant un bon port, où abordent beaucoup de marchands qui apportent des Indes toutes sortes de marchandises comme des parfums, des perles, des pierres précieuses, des étoffes de soie et d'or et des dents d'éléphant. C'est une ville royale, ayant sous sa dépendance d'autres villes et plusieurs châteaux. Le pays est chaud et malsain. Quand quelque étranger, marchand ou autre, meurt dans le pays, tous ses biens sont confisqués au profit du roi. Ils font du vin de datte ou d'autres espèces de fruits qui est fort bon. Cependant, quand on n'y est pas accoutumé, il donne le flux de ventre, mais au contraire, quand on y est fait, il engraisse extraordinairement. Les habitants du pays ne se nourrissent point de pain ni de viande, mais de dattes, de poissons salés et d'oignons. Ils ont des vaisseaux, mais qui ne sont pas trop sûrs, n'étant joints qu'avec des chevilles de bois et de cordes faites d'écorce de certains bois des Indes. Ces écorces sont préparées à peu près comme le chanvre. On en fait des filasses, et de cette filasse, des cordes très fortes et qui peuvent résister à l'impétuosité des eaux et de la tempête. Elles ont cela de propre qu'elles ne pourrissent et ne se gâtent pas dans l'eau. Ces vaisseaux n'ont qu'un mât, une voile, un timon, ils ne se couvrent que d'une couverture. Ils ne sont point enduits de poids, mais de la laitance des poissons. Et lorsqu'ils font le voyage des Indes, menant des chevaux et plusieurs autres charges, ils prennent plusieurs vaisseaux, car la mer est orageuse et les vaisseaux ne sont point garnis de fer. Les habitants de ce pays-là sont noirs et mahométans. En été, lorsque les chaleurs sont insupportables, ils ne demeurent point dans les villes, mais ils ont hors des murs des lieux de verdure entourés d'eau où ils se retirent à la fraîcheur contre les ardeurs du soleil. Il arrive aussi souvent qu'il règne un vent fort et brûlant qui vient de certains déserts sablonneux. Alors, s'ils ne se sauvaient d'un autre côté, ils en seraient suffoqués, mais d'abord, comme ils commencent à en sentir les approches, ils se sauvent où il y a des eaux et se baignent dedans. Et de cette manière, ils évitent les ardeurs funestes de ce vent. Il arrive aussi dans ce pays-là qu'ils ne sèment les terres qu'au mois de novembre et ne recueillent qu'au commencement de mars, qui est le temps aussi où les fruits sont en état d'être serrés. Car, dès que le mois de mars est passé, les feuilles des arbres et les herbes sont desséchées par la trop grande ardeur du soleil, en sorte que durant l'été, on ne trouve pas un brin de verdure si ce n'est le long des eaux. C'est la coutume du pays, quand quelque chef de la famille est mort, que la veuve le pleure pendant 4 ans, tous les jours une fois. Les pères et les voisins viennent aussi à la maison, jetant de grands cris pour marquer la douleur qu'ils ont de sa mort. Chapitre 24. Du pays qui est entre les villes de Cormos et de Kerman. Pour parler aussi des autres pays, il faut laisser les Indes et retourner à Kerman, pour parler ensuite avec ordre des terres que j'ai vues et parcourues. En allant donc au nord de la ville de Cormos vers Kerman, on trouve une belle et grande plaine qui produit de tout ce qui est nécessaire à la vie. Il y a surtout du blé en abondance. Les habitants ont aussi des dattes et d'excellents fruits en quantité. Ils ont aussi des bains fort salutaires pour la guérison de plusieurs sortes de maladies. Chapitre 25. Du pays qui est entre Kerman et la ville de Kobinam. En allant ensuite de Kerman à Kobinam, Kabis, on trouve un chemin fort ennuyant, car, outre qu'il est long de 7 journées, on n'y trouve point d'eau ou fort peu. Encore sont-elles fort salées et amères, étant de couleur verte comme si c'était du jus d'herbe. Et si l'on en boit, on a le flux de ventre. La même chose arrive quand on use du sel fait de cette eau. Il est donc à propos que les voyageurs portent d'autres eaux avec eux s'ils ne veulent pas s'exposer à mourir de soif. Les bêtes même ont horreur de cette eau lorsqu'elles sont obligées d'en boire. Et quand elles en ont bu, elles ont aussitôt le même mal que les hommes. Il n'y a dans ces déserts aucune habitation d'hommes ni de bêtes, excepté les onagres ou ânes sauvages, le pays ne produisant ni de quoi manger, ni de quoi boire. Chapitre 26. De la ville de Kobinam. Kobinam est une grande ville qui est riche en fer et en acier et en odanique, antimoine. On y fait aussi de très grands et de très beaux miroirs d'acier. On y fait encore un onguent propre au mal des yeux qui est comme une espèce d'éponge et se fait en cette manière. Ils ont en ce pays-là des mines dont ils tirent la terre et la cuisent dans des fourneaux. La vapeur qui monte va dans ce récipient de fer et devient matière, étant coagulée. La matière la plus grossière de cette terre et qui reste dans le feu est appelée éponge. Les habitants de ce canton-là sont mahométans. Chapitre 27. Du royaume de Trimochen et de l'arbre du soleil, appelé par les latins l'arbre sec. Ayant laissé derrière soi la ville de Kobinam, on rencontre un autre désert très aride et qui, à 8 journées de longueur, n'a ni arbres ni fruits. Le peu d'eau qu'il y a est très amer, en sorte que les juments même n'en peuvent pas boire. Il faut que les voyageurs emportent d'autres avec eux s'ils ne veulent pas périr de soif. Après avoir passé ce désert, on entre dans le royaume de Timochem, où il y a beaucoup de villes et de châteaux. Ce royaume est borné au septentrion par la Perse. Il croît dans la plaine de ce royaume un grand arbre appelé l'arbre du soleil et, par les latins, l'arbre sec. Il est fort gros, ses feuilles sont blanches d'un côté et vertes de l'autre. Il porte des fruits faits en manière de châtaigne, mais vide et de couleur de buis. Cette campagne s'étend plusieurs milles sans que l'on y trouve un seul arbre. Les gens du pays disent qu'Alexandre de Groix combattit Darius en cette plaine. Toute la terre habitée du royaume de Timochem est fertile et abondante en plusieurs choses. Le climat en est bon, l'air y est tempéré, les hommes y sont beaux et les femmes encore plus belles. Mais ils sont tous mahométans. Chapitre 28. D'un certain fameux tyran et de ses affaires. Il y a par là un certain canton nommé Mulette, où commande un très méchant prince appelé le Vieux des Montagnards ou Vieux de la Montagne, dont j'ai appris beaucoup de choses que j'avais rapportées comme les tenants des habitants du lieu. Voici ce qu'ils me racontèrent. Ce prince et tous ses sujets étaient mahométans. Il s'avisa d'une étrange malice, car il assembla certains bandits appelés communément meurtriers, et par ces misérables enragés, il faisait tuer tous ceux qu'il voulait, en sorte qu'il jeta bientôt la terreur dans tout le voisinage. De quoi il acheva de venir à bout par une autre imposture. Il y avait en ces quartiers-là une vallée très agréable, entourée de très hautes montagnes. Il fit faire un plantage dans ce lieu agréable, où les fleurs et les fruits de toutes sortes n'étaient pas épargnés. Il y fit aussi bâtir de superbes palais qu'il orna des plus beaux meubles et des plus rares peintures. Il n'est pas besoin que je dise qu'il n'oublia rien de tout ce qui peut contribuer au plaisir de la vie. Il y avait plusieurs ruisseaux d'eau vive, en sorte que l'eau, le miel, le vin et le lait y coulaient de tous côtés. Les instruments de musique, les concerts, les danses, les exercices, les habits somptueux, en un mot, tout ce qu'il y a au monde de plus délicieux. Dans ce lieu enchanté, il y avait des jeunes gens qui ne sortaient point et qui s'adonnaient sans souci à tous les plaisirs des sens. Il y avait à l'entrée de ce palais un fort château bien gardé et par où il fallait absolument passer pour y entrer. Ce vieillard, qui se nommait Alaaddin, entretenait hors de ce lieu certains jeunes hommes courageux jusqu'à la témérité et qui étaient les exécuteurs de ces détestables résolutions. Il les faisait élever dans la loi meurtrière de Mahomet, laquelle promet à ses sectateurs des voluptes sensuelles après la mort. Et afin de les rendre plus attachés et plus propres à affronter la mort, il faisait donner à quelques-uns un certain breuvage qui les rendait comme enragés et les assoupissait. Pendant leur assoupissement, on les portait dans le jardin enchanté, en sorte que lorsqu'ils venaient de se réveiller de leur assoupissement, se trouvant dans un si bel endroit, ils s'imaginaient déjà être dans le paradis de Mahomet et se réjouissaient d'être délivrés des misères de ce monde et de jouir d'une vie si heureuse. Mais quand ils avaient goûté pendant quelques jours de tous ces plaisirs, le vieux renard leur faisait donner une nouvelle dose du susdit breuvage et les faisait sortir hors du paradis pendant son opération. Lorsqu'ils revenaient à eux et qu'ils faisaient réflexion combien peu de temps ils avaient joui de leur félicité, ils étaient inconsolables et au désespoir de s'en voir privés, eux qui croyaient que cela devait durer éternellement. C'est pourquoi ils étaient si dégoûtés de la vie qu'ils cherchaient tous les moyens d'en sortir. Alors, le tyran, qui leur faisait croire qu'il était prophète de Dieu, les voyant en l'état qu'ils souhaitaient, leur disait « Écoutez-moi, ne vous affligez point. Si vous êtes prêts à vous exposer à la mort, au courage, dans toutes les occasions que je vous donnerai, je vous promets que vous jouirez des plaisirs dont vous avez goûté. » En sorte que ces misérables, envisageant la mort comme un bien, étaient prêts à tout entreprendre dans l'espérance de jouir de cette vie bienheureuse. C'est de ces gens-là que le tyran se servait pour exécuter ses assassinats et ses homicides sans nombre. Car, méprisant la vie, il méprisait aussi la mort. En sorte qu'au moindre signe du tyran, il ravageait dans tout le pays et personne n'osait résister à leur fureur. D'où il arriva que plusieurs pays et plusieurs puissants seigneurs se rendirent tributaires du tyran pour éviter la rage de ses forcenés. Chapitre 29. Comment le susdit tyran fut tué. L'an 1262, Allo, roi des Tartares, assiégea le château du tyran dans le désir de chasser un si méchant et si dangereux voisin de ses états, et il le prit avec tous ses assassins au bout de 3 ans, les vivres leur manquant. Et après les avoir fait tous tuer, il fit détruire le château de fond en comble. Chapitre 30. De la ville de Cheburkan. En sortant du dit lieu, l'on vient dans un beau pays, orné de collines et de plaines, de fort bons pâturages et d'excellents fruits. La terre en est très fertile, et il n'y manque rien excepté l'eau, car il faut faire quelquefois 50 et 60 000 pour en trouver, ce qui fait que les voyageurs sont obligés d'en porter avec eux, aussi bien que pour les bêtes. Il faut donc traverser ce pays-là le plus vite que l'on peut, parce qu'il est trop aride. Excepté cela, il y a beaucoup de villages. Les habitants reconnaissent Mahomet. Après cela, on vient à une ville nommée Cheburkan, où l'on trouve de tout en abondance, principalement des melons et citrouilles, qu'ils coupent par tranches et qu'ils vont vendre quand ils sont secs au lieu voisin, où ils sont fort recherchés parce qu'ils sont doux comme le miel. Il y a aussi dans ce pays-là beaucoup de gibier de venaison. Chapitre 30. De la ville de Balak. En partant de là, nous vîmes à une certaine ville nommée Balak, Balk, qui fut autrefois grande, célèbre et ornée de plusieurs édifices de marbre. Mais à présent, c'est peu de choses, ayant été détruite par les Tartares. Les habitants du lieu disent qu'Alexandre le Grand y épousa une des filles de Darius. Elle est bornée au septentrion par la province de Perse. En sortant et en marchant entre le Midi et le septentrion, on ne trouve pendant 2 journées aucune habitation, parce que les habitants, pour se mettre à couvert des insultes des voleurs et des brigands, dont ils étaient continuellement obsédés, ont été forcés de se retirer dans les montagnes. On trouve là des eaux en abondance et force gibier. Il y a aussi des lions. Les voyageurs doivent porter des vivres avec eux pour 2 jours, leur étant impossible de trouver aucun aliment sur cette route. Chapitre 32. Du royaume de Tekan. Après avoir fait les 2 journées dont nous avons fait mention, on rencontre un château nommé Tekan, dont le terrain est abondant en froment et la campagne fort belle. Il y a aussi, au midi de ce château, des montagnes de sel si grandes qu'elles pourraient fournir du sel à tout le monde entier. Le sel en est si dur qu'on ne peut le rompre et le tirer qu'avec des marteaux de fer. passait ces montagnes et allant entre l'Orient et le Septentrion, après avoir fait 3 journées, vous arrivez à une ville nommée Keshem. Tous les habitants de ce pays sont mahométans. Ils boivent cependant du vin, car le terroir en fournit en abondance, aussi bien que du froment et toutes sortes de fruits. Leur principale occupation est de vider les pots et les verres tous les jours. Leur vin est bien cuit et excellent. Mais les gens sont très méchants et bons chasseurs, car le pays est abondant en bêtes sauvages. Les hommes et les femmes vont la tête nue, excepté que les hommes se saignent le front d'une espèce de bandelette longue de 10 paumes. Ils se font des habits des peaux des bêtes qu'ils prennent, de même que des souliers et des choses, n'ayant point d'autres vêtements. Chapitre 33. De la ville de Qassem. La ville de Qassem est située dans une plaine. Il y a beaucoup de châteaux dans les montagnes qui lui sont voisines. Une grande rivière passe au milieu. Il y a en cette contrée beaucoup de porcs-épics qui, quand on approche pour les prendre, blessent souvent de leurs épines les hommes et les chiens. Car les chiens étant lancés par les chasseurs sur ces porcs, étant ainsi provoqués, ils irritent et courroucent tellement ces bêtes féroces qu'en courant, ils s'élancent en arrière sur les hommes et sur les chiens avec tant de violence qu'ils les blessent souvent de leurs épines. Cette nation a une langue particulière. Les pasteurs demeurent dans les montagnes, n'ayant point d'autres habitations que les cavernes. On va de là, en 3 journées, à la province de Balasia, Badakhchan. Il n'y a point d'habitation sur cette route. Chapitre 34. De la province de Balasia. Balasia, Badakhchan, est une grande province qui a sa langue particulière et dont le culte est mahométan. Ses rois se disent descendants d'Alexandre le Grand. Cette province produit des pierres de grand prix qui tiennent leur nom de la province même. Il est défendu, sous peine de la vie, de fouir la terre pour chercher de ces pierres et les transporter dans d'autres pays sans la permission du roi, car toutes ces pierres lui appartiennent. Il en envoie à qui il veut, soit en présent, soit en paiement de tribut. Et quelquefois, il en troque contre de l'or et de l'argent. Ce terrain produit une si grande quantité de ces pierres que le revenu du roi n'en serait pas si considérable s'il était permis à un chacun de les chercher. Et par là aussi, en devenant trop commune, elle perdrait beaucoup de son prix. Il y a une autre province qui produit la pierre appelée l'azulum, de laquelle se fait le meilleur azur qui se trouve dans le monde. Elle se tire des mines à peu près comme le fer. Il y a aussi des mines d'argent. C'est un pays très froid. Il y a beaucoup de beaux et de bons chevaux qui sont grands et rapides à la course. Ils ont la corne du pied si dure qu'ils n'ont pas besoin d'être ferrés, quoiqu'ils courent par les cailloux et les rochers. Ce pays abonde encore en venaison et en gibier. Il y a aussi des hérodiens et de très bons faucons. Ces campagnes produisent d'excellents blés, froments et millets. Il y a des olives en quantité, mais ils font l'huile de sésame et de noix. Les habitants ne craignent point les invasions de leurs voisins parce que les entrées de la province sont fort étroites et de difficile accès. Leurs villes et leurs forts sont fortifiés par art et par nature. Ils ont parmi eux de bons tireurs d'arc et d'excellents chasseurs. Ils sont vêtus, la plupart, de crin, parce que les étoffes de lin et de laine y sont fort chères. Les dames de qualité portent, cependant, du linge et des robes de soie. Chapitre 35. De la province de Bassia. La province de Bassia est éloignée du Balasia de 10 journées. C'est un pays fort chaud, ce qui fait que les hommes y sont noirs, mais rusés et malins. Ils portent des pendants d'oreilles d'or et d'argent, et aussi de perles. Ils vivent de riz et de viande, ils sont idolâtres, s'étudiant aux enchantements et invoquant les démons. Chapitre 36. De la province de Chesimur. La province de Chesimur, Cachemire, est éloignée de Bassia de 7 journées. Les habitants ont une langue particulière et sont idolâtres, s'adressant aux idoles et recevant les oracles des démons. Ils font, par leurs sortilèges et leurs invocations, condenser l'air et former des tempêtes. Ils sont basanés, car le climat est tempéré. Ils vivent de riz et de chair, et cependant, ils sont très maigres. Il y a beaucoup de villes et de villages. Le roi ne paye tribut à personne parce que son pays est entouré de déserts de tous côtés, ce qui fait qu'il n'appréhende rien. Il y a dans cette province de certains ermites qui servent les idoles dans des monastères et des cellules. Ils adorent leurs dieux par de grandes abstinences, ce qui fait qu'on les honore beaucoup et qu'on a grand peur de les offenser en transgressant leurs cruels commandements. D'où vient que ces ermites sont en grand honneur parmi les vulgaires. Chapitre 37. De la province Vokan, de ses hautes montagnes. Nous nous trouverions encore ici près des Indes si je suivais ma première route. Mais parce que j'en dois faire la description dans le troisième livre, j'en résolus de prendre un autre chemin et de revenir à Balasia, prenant ma route entre le septentrion et le midi. On vient donc en 2 jours à un certain fleuve, l'Oxus, le long duquel on rencontre beaucoup de châteaux et de maisons de campagne. Les habitants de ces cantons sont de bonnes gens, bons guerriers, mais mahométans. À 2 journées de ce chemin de cet endroit, on entre dans la province de Wakan, qui est sujette du roi de Balasia, ayant 3 journées de chemin de long et de large. Les habitants ont une langue particulière et font profession de la loi de Mahomet. Ils sont vaillants guerriers et bons chasseurs, car ce pays-là est rempli de bêtes sauvages. Si de là vous allez du côté de l'Orient, il vous faudra monter pendant 3 jours jusqu'à ce que vous soyez parvenu sur une montagne, la plus haute qui soit dans le monde. On trouve là aussi une agréable plaine entre 2 montagnes où il y a une grande rivière, le long de laquelle il y a de gras pâturages où les chevaux et les bœufs, pour maigres qu'ils soient, s'engraissent en 10 jours. Il y a aussi grande quantité de bêtes sauvages. Surtout, on y trouve des béliers sauvages d'une grandeur extraordinaire, ayant de longues cornes dont on fait diverses sortes de vases. Cette plaine contient 12 journées de chemin. Elle s'appelle Pamer. Mais si vous avancez plus avant, vous trouvez un désert inhabité. C'est pourquoi les voyageurs sont obligés de porter des provisions. On ne voit point d'oiseaux en ce désert à cause de la rigueur du froid et que le terrain est trop élevé et qu'il ne peut donner aucune pâture aux animaux. Si on allume du feu dans ce désert, il n'est ni si vif ni si efficace que dans les lieux plus bas à cause de l'extrême froidure de l'air. De là, le chemin conduit entre l'Orient et le Septentrion par des montagnes, des collines et des vallées dans lesquelles on trouve plusieurs rivières, mais point d'habitation ni de verdure. Ce pays s'appelle Bélor, où il règne en tout temps un hiver continuel. Et cela dure pendant 40 journées, ce qui fait qu'on est obligé de se fournir de provisions pour tout ce temps-là. On voit cependant sur ces hautes montagnes, par-ci par-là, quelques habitations. Mais les hommes en sont très cruels et très méchants, adonnés à l'idolâtrie, et ils vivent de chasse et se vêtissent de peau. Chapitre 38. De la province de Kassar. En sortant de là, on vient à la province de Kassar, Kashgar, laquelle est tributaire du Grand Khan. Il y a dans cette province des vignes, des vergers, des arbres fruitiers, de la soie et toutes sortes de légumes. Les habitants ont leur langue particulière, sont bons négociants et bons artisans, et ils vont de province en province pour s'enrichir, étant si fort avides de biens et si avares qu'ils n'oseraient toucher à ce qu'ils ont une fois amassé. Ils sont aussi mahométans, quoiqu'il y ait entre eux quelques chrétiens nestoriens qui ont leurs églises particulières. Le pays peut avoir 5 journées de long. Chapitre 39. De la ville de Samarcham. Samarcham est une grande ville et considérable dans le pays. Elle est tributaire du neveu du Grand Khan. Les habitants sont partie chrétiens et partie saracéniens, savoir mahométans. Il arriva en ce temps-là un miracle par la puissance divine en cette ville. Le frère du Grand Khan, nommé Sigaté, qui commandait dans le pays, se fit baptiser à la persuasion des chrétiens. Ceux-ci, ravis de joie et honorés de sa protection, firent bâtir dans cette ville une grande église qu'ils dédièrent à Dieu sous le titre de Saint-Jean-Baptiste. Or, les architectes qui bâtirent cette église le firent avec tant d'adresse que tout le bâtiment reposait sur une colonne de marbre qui était au milieu de l'église. Or, les Mahométans avaient une pierre qui convenait tout à fait à servir de base à cette colonne. Les chrétiens la prirent et la firent servir à leur dessein. De quoi les Mahométans furent fâchés, n'osant néanmoins se plaindre, parce que le prince y avait donné les mains. Or, il arriva que le prince, quelque temps après, vint à mourir, et comme son fils lui succéda bien au royaume, mais non pas dans la foi, les Mahométans, prenant l'occasion aux cheveux, optèrent de lui que les chrétiens seraient obligés de leur rendre la pierre fondamentale de la dite colonne. Les chrétiens leur offrirent une somme raisonnable pour le prix de leur pierre, mais ils ne consentirent point, voulant absolument leur pierre. Ce qu'ils faisaient par malice, et parce qu'ils s'attendaient qu'en l'ôtant de sa place, l'église serait entièrement renversée. Les chrétiens, voyant bien qu'il n'y avait pas à regimber contre l'éperon et qu'ils n'étaient pas les plus forts, eurent recours au Dieu Tout-Puissant et à son Saint Jean-Baptiste, les priant avec larmes de les secourir dans ce si grand embarras. Le jour étant venu où l'on devait tirer la pierre de dessous la colonne, le bon Dieu permit qu'il en arrivât tout autrement que ce à quoi les Mahométans s'attendaient. Car la colonne se trouvant suspendue de sa base de la hauteur de 3 paumes, ne laissa pas de rester en état par la vertu toute-puissante de Dieu. Lequel miracle continue encore à présent. Chapitre 40. La province de Yarchan. Étant parti de cette ville, nous entrâmes dans la province de Yarchan, Yarkhan, faisant environ 5 jours de chemin. Cette province est abondante en tout ce qui est nécessaire à la vie. Elle est sujette du neveu du grand Khan. Les habitants arrivèrent Mahomet. Il y a cependant parmi eux quelques chrétiens nestoriens